RFI 6h44, en temps universel. La suite des RFI matins, ce sont deux pays en crise politique et deux contestations à la une du prochain journal dans un quart d'heure, au matin de la probable désignation d'un président d'extrême droite en Géorgie. Après déjà 15 jours de manifestations contre le parti Rêve géorgien au pouvoir, accusé d'avoir truqué les législatives, on retrouve Anissa El Jabri dans le cortège devant le parlement de Tbilissi. Nous serons aussi à Séoul, où 200 000 manifestants affluent, là aussi devant le Parlement, c'est juste avant le vote sur la destitution du président Yoon Suk-yeol. On en parlera avec notre correspondante Camille Ruiz. À suivre d'ici là notamment notre grand invité Afrique, le romancier, journaliste et cinéaste malien Intagriste El Ansari. Il signe un film sur l'histoire de son peuple, le peuple Touareg. Et puis notre reportage Afrique au Tchad, alors que selon l'ONU, 2 millions de personnes ont été sévèrement touchées par les inondations depuis juillet. Vous entendrez les difficultés des habitants à reconstruire leurs habitations. Mais tout de suite, on part en Suisse avec une mesure qui ne passe pas inaperçue dans l'une des meilleures écoles d'ingénieurs d'Europe, voire du monde. L'ETH, École Polytechnique Fédérale de Zurich, a annoncé qu'elle allait renforcer ses critères d'admission pour les nouveaux étudiants et professeurs venant de 23 pays classés à risque d'espionnage. Une décision qui ne passe pas auprès des étudiants chinois très nombreux. Reportage Jérémy Lanche.
L'heure des cours à l'ETH Zurich, l'heure également du service après-vente pour Anders Ackström, le directeur des affaires internationales de l'école polytechnique l'assure depuis le début.
Ce n'est pas une liste noire, ce n'est pas une interdiction. Scanner les demandes d'admission n'a rien de nouveau. Mais avec le contexte géopolitique actuel, on a réalisé qu'on devait le faire de façon plus systématique, en plus d'être plus transparent. Tous les pays que nous avons identifiés sont soit sous embargo, soit sanctionnés par nos partenaires, l'Union européenne ou par les États-Unis. C'est juste un document pour dire à nos services, regardez, là nous devons faire attention à cette candidature si nous voulons respecter la loi.
En plus de la nationalité, l'ETH va regarder de quelle université provient l'étudiant. Est-ce qu'elle est adossée à l'armée par exemple? Est-ce qu'elle a délivré une bourse? Est-ce qu'il étudie dans un domaine sensible avec des applications possibles dans le domaine civil et militaire? C'est ce qu'on appelle des technologies duales.
Il n'y a qu'une seule technologie qui n'est pas duale, c'est le nucléaire. Tout le reste, la cybersécurité, la robotique, les drones, la chimie, on pense aux armes chimiques, les maths appliquées même, puisque ça touche à l'intelligence artificielle, presque tous les enseignements peuvent avoir des applications duales.
Concrètement, la Russie, l'Afghanistan, l'Iran, la Corée du Nord sont concernés, mais ce n'est rien en comparaison de la Chine. L'an passé, l'ETH Zurich a accepté plus de 1300 étudiants chinois. Le chiffre pourrait chuter brutalement l'an prochain et ça inquiète beaucoup. Fou, c'est le nom qu'il a bien voulu donner pour répondre au micro.
J'ai eu ma licence aux États-Unis et je suis venu à Zurich justement parce que j'avais peur de ne pas pouvoir continuer mes études là-bas en tant que Chinois. Et maintenant, ici aussi, ils décident de nous discriminer. Je suis vraiment déçu. Je comprends que l'espionnage inquiète la Suisse, mais les étudiants chinois ne sont pas des espions. Ok, notre gouvernement est peut-être capable de ce genre de trucs, mais pas les étudiants.
La grogne est telle que des tags ETH égale nazi ont été retrouvés sur les murs de l'école. L'ambassade de Chine, elle, s'est dite choquée par les nouvelles mesures. La direction dit simplement appliquer la législation en vigueur, d'autant que les services de renseignement suisses ont déjà alerté les universités du pays sur le risque d'espionnage. Jérémy Lanche, Zurich, RFI.
Reportage en Suisse à retrouver sur rfi.fr. Et je vous le disais ce matin, notre grand invité Afrique est un romancier, journaliste et réalisateur malien, originaire de Tombouctou. Intagriste El Ansari est issu de la tribu Touareg Kel Ansar, réputé pour ses connaissances mystiques et la valeur de ses combattants. Son film Ressac, une histoire Touareg, est diffusé pour la première fois aujourd'hui aux Journées cinématographiques de Carthage à Tunis. Il lui aura fallu une dizaine d'années de tournage pour remonter le fil et l'histoire du peuple Touareg. Un film qui commence par un message à son propre fils et une photo, celle d'Intagriste El Ansari lui-même à 14 ans dans le camp de réfugiés de Mbera en Mauritanie. Il nous en parle avec David Bachet.
Intagriste, dans ce film, quelle a été votre démarche? Vous vous adressez d'abord à votre fils pour lui expliquer quoi?
Je m'adresse à mon fils pour lui raconter une histoire qui est malheureusement ensevelie. Je suis en exil en Mauritanie et mon fils est né en exil. Et il y a 30 ans, je connaissais moi-même mon premier exil. Et donc, j'ai trouvé que c'était une bonne articulation pour lui raconter cette histoire. En fait, c'est vraiment une histoire qui... La prise de conscience de la fin d'un monde. Moi, je suis un enfant du campement dans les années 80. J'étais encore dans le campement, dans la région de Tombouctou. Et ma plus grande inquiétude, en tout cas mon obsession dans ce film, c'était que mon fils... Et la génération, par-delà mon fils, la génération des enfants Touareg qui sont nés maintenant en exil, comprennent et entendent que ce monde-là a réellement existé, qui sont les héritiers, pas seulement d'un imaginaire, qui est l'imaginaire Touareg, mais ce monde a réellement et physiquement existé. Et pour ça, je fais le voyage de Nouakchott à Tombouctou et je rencontre des personnages qui ont été les témoins et les acteurs de ce monde-là depuis les 60-70 dernières années.
Vous dites cette histoire, concrètement, c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de quoi? Elle se passe où?
Disons que c'est l'histoire d'une génération, c'est l'histoire d'un fragment, je dirais, du monde Touareg. C'est une histoire qui va de moi à mon fils et d'une certaine façon aussi de moi à mon père qui est décédé pendant que j'étais très jeune. Et en fait, mon idée, c'était de faire le voyage de Nouakchott à Tombouctou pour rencontrer des témoins, des gens qui ont été de la génération des aînés, qui sont nés dans les années 30, et qui sont les derniers témoins de cette histoire. Et je voulais que mon fils ait un fragment de cette histoire Touareg avant qu'elle ne disparaisse définitivement, parce que c'est la dernière génération qui relie en fait ma génération au monde Touareg ancien. Et sans doute, mon fils ne connaîtra pas le monde Touareg d'avant, celui qui a été le monde de mon enfance, le monde nomade de mon enfance.
Quand vous dites cette histoire va disparaître, c'est parce que vous racontez l'histoire du peuple Touareg, du peuple nomade tel qu'il vivait auparavant. Ce n'est pas une question de politique ou d'actualité, c'est une question de tradition.
Tout ça est un peu enchevêtré, si je puis dire. C'est-à-dire que la fin du monde nomade Touareg est la résultante des conséquences du changement climatique et aussi la résultante de la pénétration coloniale au Sahara à la fin du 19e siècle, mais aussi la conséquence des politiques qui ont été défavorables en fait à ce mode de vie nomade depuis une cinquantaine d'années maintenant. Donc le monde Touareg est en train de disparaître, le monde nomade plus exactement disparaît, et donc le film raconte effectivement tous ces problèmes-là depuis la pénétration coloniale française au Sahara.
Est-ce que vous abordez l'actualité politique au Mali?
L'actualité politique est sous-jacente dans l'histoire parce que je filmais dans le camp des réfugiés en Mauritanie, en Berra. L'actualité politique est sous-jacente parce que le film raconte cette histoire avec une certaine profondeur historique qui remonte, comme je le disais tout à l'heure, à la pénétration coloniale. Bien sûr, on passe par les indépendances, on passe par les différentes rébellions qui sont aussi les causes de tous les exils que les Touareg connaissent depuis les années 90. Donc évidemment, l'actualité en tant que telle est abordée de cette manière-là, même si c'est un film qui prend quand même, disons, une profondeur par rapport à... Je ne voulais pas m'arrêter spécifiquement sur l'actualité, parce que l'actualité change déjà tout le temps. Et c'est un film que j'ai tourné sur une dizaine d'années quasiment. Et en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Mais c'est là on trame de fond, oui, absolument.
Inta Gristel Ansari, je rappelle le titre de votre film, Ressac, une histoire Touareg, projeté à Tunis à partir de ce samedi dans le cadre des journées cinématographiques de Carthage. C'est jusqu'au 21 décembre. Merci beaucoup Inta Gristel Ansari.
Merci beaucoup David, à bientôt.
Le romancier, journaliste et réalisateur malien Inta Gristel Ansari, grand invité Afrique d'RFI Matin avec David Baché. Pluie torrentielle, des quartiers entiers submergés, des centaines de milliers de maisons effondrées. Au Tchad, les inondations catastrophiques ont gravement affecté près de 2 millions de personnes depuis le mois de juillet, selon les Nations Unies, un chiffre révisé à la hausse cette semaine, alors que les sinistrés s'emploient désormais à reconstruire leurs habitations. Tous n'y parviennent pas. Reportage à N'Djamena de notre correspondant Olivier Monodji.
Dans sa cour au quartier Boutalbagar, dans le 7e arrondissement, avec une tasse d'eau en main, Gilbert Lambo, chômeur, tente de reconstruire sa maison qui s'est écroulée, mais les moyens lui manquent.
C'était le 14 juillet dernier exactement. que mes quatre chambres étaient tombées. Pendant la période de sudide et après, ça s'est enchaîné avec la période des inscriptions des enfants. Donc c'était compliqué pour moi. Je tente de reconstruire parce que je veux que ma famille soit sous un abri.
Zara, également victime des inondations dans le premier arrondissement, n'a elle pas le courage de reconstruire sa maison.
Vraiment, je suis dépassée par cette situation. Je voulais reconstruire la maison écroulée, mais je n'arrive pas. S'il faut construire, l'année prochaine, ça va encore reprendre. On est dépassé. Maintenant, je ne sais qu'est-ce qu'il faut faire.
Il faut dormir dans des maisons modernes. Nous sommes au 21e siècle. Soutien, c'est au cadre tchadien qui justifie que c'est la raison de cette tracasserie quotidienne.
Que la population tchadienne ait une habitation décente. Donc c'est très important parce que nous sommes au 21e siècle et dormir au plan des taudis, ce n'est pas quand même moderne. Il faut qu'on ait une habitation moderne qui réponde aux desiderata de nos populations. Nous sommes au regret de le dire.
Mamad Asilek Halata, ministre de l'aménagement du territoire et de l'habitat, estime qu'il faut prendre des dispositions pour éviter de vivre cette situation les prochaines années.
Partout ailleurs, ça ne se fait pas. Ce n'est pas simplement au Tchad qu'on va nous demander de faire cela. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement va aider autant que peu à se réinstaller. Mais la priorité des priorités, c'est de pouvoir tout faire avec les expériences acquises de 2022-2024 pour que encore une saison comme ça ne puisse pas arriver. Il y a des populations qui, dans l'occupation anarchique des terres, sont allées s'installer dans les lits de fleuve. Et là, nous n'avons pas d'autre moyen que de les faire déguerpir et les installer ailleurs.
Selon le gouvernement tchadien et les organisations humanitaires, plus de 200 000 maisons se sont écroulées au Tchad durant les inondations de cette année 2024. Les victimes qui n'arrivent pas à reconstruire appellent à l'aide le gouvernement et les personnes de bonne volonté. Olivier Monodi, N'Djamena, RFI.
Et N'Djamena, il est bientôt 8h, bientôt 7h en temps universel et sur RFI. L'actualité des médias, comme chaque samedi. Bonjour Amaury de Rochegonde.
Bonjour Julien.
Nous parlons avec vous aujourd'hui de la fatigue informationnelle à la lumière d'une étude publiée mercredi par la Fondation Jean Jaurès, Arte et l'Observatoire Société et Consommation.
Oui, vous savez, cette petite musique avant la nomination du Premier ministre, avec son délai de 48 heures annoncé par l'Élysée et finalement dépassé, des rédactions sur le pont ou en émission spéciale pour broder sur des hypothèses, eh bien tout cela, les Français n'en veulent plus. On le voit à travers cette étude, un tiers des personnes interrogées seulement se déclarent intéressées par la séquence politique qui a suivi la dissolution. Et on descend en dessous de ce tiers quand il s'agit de dire que les informations ont aidé à mieux comprendre les enjeux ou à voir les choses de différents points de vue. C'est plutôt le sentiment d'un trop-plein, d'une répétition, d'un flux incessant. Un mois avant les élections européennes, on trouvait moins de 4 personnes sur 10 pour dire que les infos les aidaient à prendre une décision. En outre, l'actualité est de plus en plus perçue émotionnellement, que ce soit pour la guerre en Ukraine, le conflit à Gaza et les émeutes après la mort de Naël. Il y a souvent près de la moitié des Français qui se déclarent angoissés, stressés ou énervés. D'où une fatigue qui est ressentie par 54% des personnes interrogées.
Et l'étude, Amaury, parle aussi d'un exode informationnel.
C'est vrai, l'étude parle de désengagement, de reflux. On a recours à moins de canaux pour s'informer, pas plus de 3 en général, et l'intérêt pour les médias baisse en 2 ans. C'est particulièrement vrai pour les chaînes d'infos, les émissions d'actu divertissement et même pour les radios. Parallèlement, ce sont les réseaux sociaux qui en profitent. Les TikTok, Insta, X, Facebook ou YouTube servent de plus en plus à s'informer en bien ou en mal, puisque plus d'un Français sur 2 estime qu'ils peinent à distinguer le vrai du faux. Le désengagement se ressent aussi par une moindre implication dans l'actualité. On partage moins d'infos, on en discute moins avec ses proches et on éprouve moins le besoin de croiser ses sources. En outre, l'information doit se trouver une place dans la bataille des plateformes en ligne pour capter l'attention et la tentation des médias est alors d'attirer l'œil ou l'oreille plutôt que d'informer. Si on est adepte du scrolling, le fait de passer d'une vidéo à l'autre très fort chez les jeunes, on peut avoir le sentiment d'être le jouet des algorithmes, de se faire voler sa vie. La parade est alors de désactiver ses notifications, de se tenir à distance des réseaux sociaux, mais aussi de l'actualité. Finalement, on aspire à un peu moins de boulimie et à un peu plus de mesure.
Merci à Maureen Rochegonde.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Entre démocratie et islam, un pacte est possible. Dans son livre « Islam et démocratie » publié aux éditions du Cherche Midi, Hicham Alaoui revient sur les cas égyptiens et tunisiens et pour Carrefour du Maghreb sur l'échec de la démocratisation dans son pays natal, le Maroc.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI. La marche du monde, Valérie Nivelon.
Elles s'appellent Jane et Paulette Nardal et elles incarnent la modernité noire dans les années 20 et 30. Petites filles d'esclaves nées en Martinique, elles font partie des premières étudiantes antillaises à Paris. Vous ne connaissez pas leur nom et pourtant, Jane et Paulette Nardal sont les autrices d'une œuvre d'avant-garde, pionnière de la négritude.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.